récolter les plantes, on a une méthode toujours aussi simple, héritée de nos prédécesseurs depuis des dizaines ou 300 ans. On a besoin de papier journal, de matériel pour presser les plantes et les maintenir vraiment bien serrées afin qu'elles sèchent dans une position bien étalée. On a besoin de matériel pour les sécher aussi. Et puis on a besoin d'un carnet et d'un crayon pour noter tout ce qu'on voit et tout ce qu'on peut observer quand la plante est fraîche au moment où elle est récoltée. On a besoin d'un sécateur pour couper les échantillons. C'est très simple. Certains préfèrent, et j'en fais partie, quand c'est possible, ce n'est pas toujours, préfèrent vraiment s'asseoir par terre là où la plante a été récoltée, au pied de l'arbre, et se déplacer avec une presse de terrain qu'on ferme avec des sangles, qu'on rouvre à chaque fois qu'on a un nouvel échantillon pour le mettre dedans. Donc on empile ces journaux et le soir de préférence, on va mettre tout cet empilement asséché sur un séchoir. Alors on le dispose sur la tranche comme ça, de façon à ce que l'air chaud qui va monter d'un réchaud disposé en dessous traverse les échantillons et sèche les plantes. Il vaut mieux tout de suite le sécher. On a une alternative pour vraiment les cas où on ne peut pas sécher, c'est que ce paquet bien serré, bien sanglé, on le met dans un sac en plastique étanche et on imbibe le tout d'alcool. Et alors comme ça peut se conserver très très longtemps.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Depuis près de 4 siècles, comme nous le confiait Odile Poncy, une des responsables de l'herbier du Muséum d'Histoire Naturelle en 2004, les gestes des botanistes sont demeurés les mêmes. Chercher la plante rare, la récolter avec précaution, la sécher et la presser entre des feuilles de carton, noter à la main le lieu de la récolte et les caractéristiques du végétal sélectionné. C'est Joseph Piton de Tournefort qui inventa le terme d'herbier à la fin du XVIIe siècle et occupa le premier la chaire de botanique que créa pour lui Louis XIII à l'endroit exact où s'élève toujours notre jardin des plantes. Et depuis, ces 124 liasses qui recensait 6000 plantes ne sont plus qu'une toute petite partie des 8 millions de spécimens qui font de l'herbier du muséum le plus grand du monde. Achevée en 2013, la numérisation de l'herbier offre désormais aux curieux l'accès en ligne à cette incroyable bibliothèque du vivant. Arrivé au muséum un peu par hasard, alors qu'il était étudiant en agronomie, Marc Janson est littéralement tombé en amour pour ce lieu magique dans lequel flottent toujours les ombres bienveillantes des grands anciens Jussieu, Commerson, Linné, Saint-Hilaire, Lamarck. Aujourd'hui à 37 ans, devenu le spécialiste mondial d'une tribu de palmiers cariotes à feuilles étroites, originaire d'Asie du Sud-Est, il est responsable de l'herbier national et il nous raconte dans Botaniste, un livre délicieux plein d'histoires passionnantes, coécrit avec la journaliste Charlotte Fauve et publié chez Grasset, la vie si riche de nos frères végétaux et de ceux qui vivent en leur très bonne compagnie. Bonsoir Marc Janson.
Bonsoir Cathy Nevin.
En 2004, il y avait eu ce magnifique livre publié à l'Iclonoclaste, l'herbier du monde, avec des photos magnifiques. Et à l'époque, cet herbier n'avait pas encore été rénové. Avant d'en parler avec vous, on va écouter un petit extrait du reportage qui avait été réalisé pour L'Humeur Vagabonde par Martine Abad. C'est Odile Poncy que l'on vient d'entendre, qui à l'époque allait superviser justement la rénovation de cet herbier.
Quand on commence cette visite de l'herbier, ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'alignement en fait de toutes ces colonnes, ces séries d'armoires.
C'est impressionnant. Il y a un couloir devant nous qui doit faire au moins 50 ou 60 mètres de long.
Il fait 70 mètres à peu près.
70 mètres.
Voilà. Et il y en a 3 étages comme ça.
Et de part et d'autre, il y a des casiers en métal.
Voilà, il y a des grands blocs de casiers métalliques qui font 3,50 mètres de hauteur. Et à l'intérieur, les plantes sont rangées. Il y a à peu près 100 plantes,
par
100 à 200 par casier. Et je peux vous dire qu'il y a entre 7 et 8 millions d'échantillons dans cet herbier. Nous avons commencé la visite par le troisième étage. C'est l'étage où sont réunies toutes les plantes récoltées dans des pays d'Europe et notamment de France. Et au deuxième étage et au premier sont respectivement classées les plantes d'Afrique et de Madagascar et au premier étage d'Asie, d'Amérique et d'Australie. Après, dans chaque étage, nous avons d'autres critères de classement. Ce qu'on cherche, c'est à augmenter les connaissances sur les espèces. Imaginez que cette plante a été récoltée près de Clermont à Gerza, voilà, dans le Puy-de-Dôme. Ça veut dire que que si je cherche à savoir la répartition géographique de cette plante, où est-ce qu'elle pousse, dans quelles conditions, dans quelle région, à quelle altitude, etc., ça c'est encore une des fonctions de l'herbier, c'est de regrouper dans un même lieu des informations sur les plantes qu'on a récoltées à différents endroits et à différentes époques. Alors les paquets sont fermés entre deux cartons forts, un peu comme du carton à dessin, et fermés par une sangle. Donc il faut être sportif pour un botaniste, déjà parce qu'on va sur le terrain, mais même dans l'herbier, vous voyez, quand les paquets sont tout là-haut, ben, il nous faut trouver une échelle et la déplacer. C'est une espèce de grande échelle montée sur roulette. Et si on va aller chercher le paquet juste à 3 mètres de hauteur là-haut, par exemple ces renoncules, qui sont peut-être très banales, mais certainement pas toutes, et qui sont rangées là-haut à 3 mètres. Quand on a besoin d'examiner un spécimen récolté par un Joseph de Jussieu au Pérou, par un Bonplan dans l'expédition Bolt et Bonplan, toute l'époque des grandes explorations au XVIIIe, que ce soit les voyages de Bougainville, du capitaine Cook, de la Pérouse, avait des botanistes. Et donc on tombe sur ces spécimens. On ne peut pas être blasé de ça. Et c'est vrai que quand on apporte, qu'on a fait tout son processus de récolte, de séchage, on est rentré à l'herbier, on a fait son étiquette, on l'a collé ou fait coller sur la planche et qu'on va le mettre à sa place dans la collection et qu'on se trouve le classer à côté de spécimens qui ont été récoltés par d'illustres prédécesseurs, on est quand même assez fiers.
Marc Janson, ce reportage datait, je le disais, de 2004, c'est l'époque où j'avais fait cette émission sur l'herbier qui est rentré tout de suite après dans une période de modernisation, de numérisation jusqu'en 2013, la date à laquelle vous avez pris la tête de cet herbier, c'était la mémoire de la planète, ça allait rester, mais ça a changé. C'est-à-dire qu'en fait, entre le début, tout début du cabinet royal de l'herbier, il y avait eu finalement très peu de changements. C'était le même lieu, c'était les mêmes odeurs, les mêmes classeurs. Et puis tout d'un coup, l'herbier est rentré dans le 21e siècle directement. Beaucoup de choses ont été améliorées. Peut-être un petit parfum de nostalgie s'est égaré.
Alors Odile a raison, on ne peut pas être blasé quand on est dans cet univers assez extraordinaire qu'est l'herbier national. Par contre, effectivement, on peut peut-être parfois être ému. Et c'est vrai que les bruits que nous avons entendus et qui accompagnaient les propos d'Odile, ce sont des bruits qui aujourd'hui appartiennent au passé. Ces clapets des casiers métalliques qui se refermaient dans ce bruit sec, je ne les avais pas entendus depuis 2007, quand j'ai quitté l'herbier, au moment où il s'apprêtait à faire cette grande mue, ce grand changement. Donc c'est vrai que c'est tout un voyage dans le passé. Cette collection, elle a quand même changé, puisqu'au départ, on avait comme une sorte d'embryon d'herbiers collectés par des gens comme par exemple Fagon, qui a été le premier médecin du roi. Et ces herbiers, en fait, ne restaient pas sur le site du Jardin Royal des plantes médicinales à l'époque, au XVIIe siècle, parce qu'ils appartenaient aux botanistes. Donc on était déjà dans un contexte différent où ces collections ne restaient pas sur le site du Jardin Royal. Et puis, grâce à Tournefort, que vous évoquiez, on a pour la première fois un herbier qui va rester à demeure sur le site du Jardin. Mais c'est des collections qui vont quand même se déplacer beaucoup, parce que leur caractéristique, c'est de s'enrichir en permanence, encore aujourd'hui. Et que souvent, c'est un peu l'histoire éternelle des collections en général et des collections d'histoire naturelle peut-être en particulier, parce que ce sont des volumes de collections extraordinaires, eh bien c'est de se déplacer parce que l'espace vient à manquer. Donc il y a eu plusieurs bâtiments dans l'histoire du Jardin Royal, puis du Muséum, qui ont été créés pour abriter ces collections, pour conserver ces collections de botanique. Le dernier en date, c'est le bâtiment dans lequel nous nous trouvons encore aujourd'hui, rue Buffon. Mais la grande actualité, c'est effectivement cette immense rénovation qui a été un véritable tour de force, hein. C'est l'occasion de saluer le travail d'Odile et des collègues, parce que ça s'est fait en des dizaines de phases différentes, de déménagement, de renforcement du bâtiment. Toutes les collections ont été reprises, on en a changé la présentation. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. Ça fait de l'herbier de Paris l'herbier le plus important au monde, comme vous le disiez, mais aussi quelque part le plus moderne, puisque de tous ces travaux est aussi né un outil extraordinaire et très innovant, très typique de ce 21e siècle. C'est ce qu'on appelle l'herbier numérique. C'est que 6 sur les 8 millions des spécimens qui composent notre collections aujourd'hui ont été numérisées et sont accessibles en ligne.
Mais Marc Janson, vous le dites, 8 millions d'espèces répertoriées dans cet herbier national, c'est à peine 10% de ce qu'on connaît, enfin de ce qu'on devrait connaître au monde, de la flore du monde, du vivant. Est-ce qu'on va arriver à numériser avant que cette sixième extinction du vivant ait lieu?
Alors, ce ne sont pas 8 millions d'espèces, ce sont 8 millions de spécimens. Pour les plantes vasculaires, par exemple, c'est-à-dire les fougères, les conifères et les plantes à fleurs, c'est-à-dire les plantes qui nous entourent et qu'on va identifier peut-être le plus facilement, on recense aujourd'hui environ 400 000 espèces. Donc vous voyez que pour 400 000 espèces, on a 6 millions de spécimens. Les deux autres millions concernent les plantes qui ne sont pas vasculaires. Et donc sur ces 6 millions de spécimens, on peut avoir pour une seule espèce, par exemple le pissenlit, si on allait ensemble dans l'herbier national et qu'on regardait les pissenlits, même le pissenlit commun, on va retrouver pour cette même espèce pissenlit commun des dizaines de spécimens différents qui ont été collectés par des botanistes différents, à des époques différentes, dans des lieux différents. C'est ça qui nous permet de documenter les changements dans la distribution de ces espèces. Par exemple, il y a 200 ans, on peut imaginer qu'un botaniste ait collecté ce pissenlit à un endroit où aujourd'hui on ne le trouverait plus du tout parce qu'il y a eu des changements dans l'aménagement urbain éventuellement, dans des transformations liées au réseau hydrique ou que sais-je, qui expliquent que ces espèces subissent des changements essentiellement liés à l'activité humaine.
Alors c'est vrai, Marjanson, qu'on a l'habitude d'entendre que, par exemple, les sortes de blattes vivaient avant nous et nous survivrons après l'hiver nucléaire. Mais on oublie de dire qu'au fond, les plantes étaient là bien avant nous, elles seront là, Dieu merci, bien après nous. Et souvent, les hommes n'ont pas tellement prêté attention à ces plantes, comme s'il était évident qu'il y ait toujours des plantes. On sait aujourd'hui qu'avec la disparition des abeilles, les plantes sont menacées. Et dans votre livre, vous rendez hommage à un certain nombre de précurseurs et même de savants qui sont encore là aujourd'hui. On va écouter Francis Allais nous parler justement de cette intelligence des plantes.
J'ai beaucoup de contemporains qui ne pensent pas que ce soit des êtres vivants. Parce qu'ils adoptent pour la définition de la vie quelque chose qui nous conforte nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Les arbres, évidemment, ils ne marchent pas, ils ne font pas de bruit. Donc, ils ne sont pas vivants. Voilà. Les gens, c'est aussi simple que ça, ce raisonnement. Ça ne me convient pas, bien sûr. Ils vivent beaucoup plus longtemps, ils savent faire beaucoup plus de choses. Ils ont des quantités de sensibilité que nous n'avons pas. Et ils ont en plus toutes les sensibilités que nous avons.
Le plus vieil arbre repéré à ce jour?
C'est un arbre de Tasmanie qu'on appelle le hou royal là-bas. C'est pas vraiment un hou, c'est une famille qu'on n'a pas en Europe, mais peu importe. 43 000 ans, c'est l'âge de Néandertal. La graine a germé à l'époque où il y avait deux espèces humaines sur la Terre. C'est très impressionnant. Il n'est pas du tout prêt de mourir. C'est un arbre qui est potentiellement immortel. Potentiellement. C'est-à-dire que, et là je connais bien la brutalité des Australiens dans l'île de Tasmanie, ils peuvent le couper. Ou ils peuvent dégrader son environnement jusqu'au moment où l'arbre meurt. Potentiellement veut dire que si, tant que les conditions sont bonnes, il restera vivant. Ce qu'on peut leur souhaiter à ces arbres, vous voyez, c'est pas compliqué. Qu'on leur foute la paix.
Voilà une belle expression que vous pourriez reprendre à votre compte, Marc Janson. Mais je dis que c'est vrai. Écoutez, parler Francis Allais, on s'en lasse pas. Lire le livre que vous venez de publier avec Charlotte Fauve, c'est en fait comme un chant d'amour pour les plantes. Et c'est vrai que on entend souvent cela pour les animaux, on l'entend moins pour les plantes. Il serait peut-être temps que les humains se rendent compte que les plantes sont nécessaires même à la survie de l'espèce humaine.
Alors les plantes sont nécessaires à la survie de l'espèce humaine, mais sans les plantes, il n'y aurait pas d'espèce humaine, puisque si on veut revenir véritablement à l'origine des plantes terrestres, lorsqu'elles sont sorties des mers pour coloniser le milieu terrestre, c'est grâce à elles que l'on doit la composition de l'atmosphère dans laquelle on baigne et que l'on respire tous les jours. C'est à elles que l'on doit la production de la nourriture. Même si on consomme des animaux, ces animaux, en général, ont été nourris à partir de végétales. C'est elles qui nous vêtissent. Si on devait regarder ce qui compose ce studio autour de nous, on trouverait beaucoup d'éléments plastiques, mais le plastique, ce sont des plantes transformées. Toute l'énergie qui circule dans le monde aujourd'hui, à quelques exceptions près, c'est de l'énergie qui vient des végétaux. Et donc, effectivement, sans végétal, point d'animal et donc point d'humain. Mais il y a ce côté utilitaire, c'est certain, mais il y a aussi cette magnifique puissance de l'altérité des plantes. C'est vrai que souvent on passe à côté, on les voit, on appelle ça l'espace vert, on appelle ça la verdure, c'est-à-dire un espèce de tout homogène qui ne se caractérise que par sa couleur, et on ne va pas jusqu'à essayer de décerner, déchiffrer au milieu de toute cette verdure certaines formes particulières, certaines structures particulières, certaines floraisons particulières. Et c'est fort dommage parce qu'on passe à côté d'une magnifique spontanéité, d'une diversité de formes, de parfums, de couleurs, d'architecture absolument incroyable et finalement d'une esthétique formidable qui, pour beaucoup de botanistes, je dirais, est une aide au quotidien. En tout cas, ça devient une sorte d'obsession, je pense, et de passion.
Mais c'est votre ancien professeur, Patrick Blanc, l'homme aux cheveux verts, qui dit que la plante est la compagne des angoissés. C'est vrai qu'on sait à quel point faire pousser des plantes est un baume pour l'âme. On va écouter Patrick Blanc, justement, parler de ce bonheur de vivre avec les plantes.
L'avantage des plantes sur les animaux, c'est qu'elles sont capables d'utiliser l'eau, le gaz carbonique et le sol et la lumière pour faire tout leur sucre, tout ce dont on a besoin, nous, qu'on est obligé de manger chez les autres. Nous, quand on mange de l'animal ou de la plante, c'est parce qu'on peut pas le faire. Donc, elles, qu'est-ce qu'elles ont de fascinant? Bon, c'est pas tellement les fleurs, parce que les fleurs, finalement, c'est pas autonome. La fleur, elle parasite le feuillage, puisque elle est pas verte, elle fait pas de substance, elle-même, la fleur. Donc, c'est une forme de sexualité, mais qui est, à mon avis, beaucoup moins créative que le fait d'avoir du feuillage, parce que c'est par le feuillage qu'elles vivent, qu'elles fabriquent tout ce qu'on est incapable de faire, nous. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est, ce qui est fascinant, c'est cette façon dont elles arrivent à toute la diversité qu'elles ont eue dans cette façon d'exprimer leur usine à sucre. Et c'est ça que je trouve fascinant. Bon, les fleurs, c'est beau. Il y a quand même quelques fleurs, hein, ici.
Mais c'est la reproduction aussi, c'est la pérennité de la plante.
Oh, mais les plantes, elles ont d'autres systèmes de pérennité autres que le sexe, hein. D'ailleurs, justement, c'est un gros avantage sur les animaux. Nous, on n'a pas le choix. On n'a que le sexe. On est obligé de faire des petits. Les plantes, elles sont capables de rejeter à la base. Vous savez, on s'aperçoit qu'il y a certains lycopodes, par exemple. On ne peut pas jurer que c'est pas le même individu qu'il a depuis le début du Carbonifère, depuis à peu près 350 millions d'années. On peut pas le jurer. Je veux dire, s'il n'y a pas eu de variation climatique trop contraignante, ou si la plante, en se promenant, en faisant ses stolons, est allé et puis est venu. Regardez un fraisier avec ses stolons. Le stolon, c'est une tige qui cavale et qui se renracine. Il est immortel, potentiellement au moins. Une plante, à partir du moment où elle arrive à refaire des nouvelles racines près d'une zone où il y a des bourgeons, c'est gagné.
Marc Janson, vous aussi, vous avez été séduit par les plantes sans vous y attendre, puisque vous vous destiniez plutôt à la profession de vétérinaire quand vous étiez tout petit, et qu'il n'y a pas en fait de cursus universitaire pour devenir botaniste. Et c'est en fait en fréquentant les plantes de l'herbier que vous êtes tombé amoureux de ce qui allait devenir votre métier, votre vie, votre passion.
Il y a eu une rencontre un peu de hasard, une salle de travaux pratiques au collège qui s'endort en quelque sorte pour la pause estivale, des plantes qui sont dans ce laboratoire, dans cette salle de travaux pratiques, qui risquent de mourir. Donc un laborantin qui, de façon très spontanée, nous demande si ça nous intéresse de récupérer quelques-unes de ces plantes. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai dit oui, rien ne m'y poussait, rien ne m'y prédestinait. J'ai dit oui, je ne le regrette pas. Donc pour beaucoup de botanistes ou d'amateurs de plantes, il y a un moment dans notre histoire, une sorte de révélation qui fait qu'on va enfin s'intéresser au végétal pour ce qu'il est, dans son altérité et pour son originalité.
Dans la vie, ça s'appelle un coup de foudre.
The nucleus of all begins inside a tiny seed, and what we see as insignificant provides the pure first air we breathe. But who am I to doubt or question the inevitable being? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of man. A species small, the then larger than most living things, and yet we take from it without consent our shelter, food, a bilement. But who am I to doubt?
L'humeur vagabonde sur France Inter.
On a ces plantes, si vous voulez, qui ont perdu une partie de leurs caractéristiques. Si elles avaient un latex, souvent il est séché. Si elles avaient des poils, ils sont aplatis. Si elles avaient une couleur, elle est un peu ternie. Si elles avaient une odeur, elle a disparu. Si elles avaient, et encore que certains caractères, comme la présence d'alcaloïdes, les poils irritants, les résines urticantes, tout ça, ça reste. Et ceux qui les manient 100 ans après en ressentent encore les effets. Mais il suffit maintenant de réhydrater ces échantillons, hein, les faire bouillir, un peu comme une soupe de carottes, hein, ou de poireaux, et la plante regonfle et reprend tout à fait son aspect. On peut y refaire des coupes anatomiques extrêmement fines. On peut faire des études épidermiques, des études phytodermologiques, on peut faire des études palynologiques, avec tous des moyens de, qui restituent, si vous voulez, la plante telle qu'elle était à ses débuts, lorsque l'on a récolté.
Marc Janson, c'était la voix de Philippe Mora qui dirigeait le laboratoire de phanérogamie de 86 à 2003 et qui m'expliquait en 2004 qu'au fond, ces plantes séchées, il suffit d'un peu d'eau, en fait, pour qu'elles reprennent toutes leurs caractéristiques, qu'on puisse effectivement les travailler. C'est assez fascinant d'écouter cette histoire qui traverse les siècles, qui est arrivée jusqu'à nous et qui est un vrai morceau de passé, de notre passé, parce qu'en plus, ça brasse, et dans votre livre, vous le racontez bien, ça brasse aussi toute l'histoire des découvertes, des expéditions lancées par la France, en l'occurrence, qui, avec à chaque fois des botanistes qui accompagnaient les découvreurs de territoires, les savants de toutes sortes. Et en fait, pour vous qui travaillez aujourd'hui dans ce laboratoire un peu aseptisé, c'est quand même à chaque fois qu'on ouvre un de ces classeurs, c'est l'histoire qu'on retrouve avec un peu d'eau, on reprendrait la plante qu'a cueillie Commerson ou qu'a mis sous presse Lamarck.
Alors, cette plante, on la retrouve même sans eau, puisqu'elle est certes séchée et pressée, mais ses caractéristiques, on peut les observer très 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 facilement en se penchant simplement sur ce petit morceau de plante séchée. Ce qui est très beau, je crois, dans les herbiers, et vous parliez d'un coup de foudre tout à l'heure, et vous avez probablement raison, c'est que il y a un premier abord qui est un petit peu aride, sans vilain jeu de mots, puisqu'on a affaire à des collections qui, dans l'immense majorité, sont présentées sous un même format, d'environ 30 cm sur 40 cm. Tout est en deux dimensions, puisque ces fragments végétaux ont été pressés, et les couleurs se sont affadies, ce qui fait qu'on a en fait une espèce de continuum qui, d'un spécimen collecté par Plumier, lorsque Louis XIV l'envoie explorer la flore des Antilles françaises, ou cueilli il y a quelques semaines par un botaniste quelque part dans le monde, on a une sorte de similitude, de proximité, qui fait que souvent on a du mal à en déceler l'identité propre, la caractéristique propre. Il faut vraiment commencer à s'immerger à l'intérieur de ces herbiers, commencer à devenir un petit peu graphologue, à reconnaître les écritures, à comprendre un peu le latin pour voir que voilà, ça vient de l'iter persicum, le voyage en Perse. Et quand on commence véritablement à se pencher sur ces herbiers et à en comprendre toutes les dimensions comme vous le disiez, les dimensions historiques, les dimensions humaines aussi, puisque derrière chaque spécimen se cache un botaniste, les dimensions évidemment scientifiques, cette plante, quelle est-elle, quel est son nom, où a-t-elle été collectée, est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui, il y a véritablement la convocation sur un de ces petits fragments de plantes présentés sur un petit morceau de papier, il y a ce contraste entre l'humilité de la collection qui est en face de nous, quelques feuilles, quelques fleurs, un rameau séché, pressé, un morceau de papier, il y a de là vraiment une immense simplicité, et pourtant il y a une valeur historique, patrimoniale, scientifique qui est absolument unique, puisque chaque herbier c'est la réunion de quatre éléments, c'est un botaniste à un moment de l'histoire, face à une plante donnée, dans un lieu précis. Et c'est ce qui fait que chaque spécimen est absolument irremplaçable, puisque ces quatre paramètres, vous ne pouvez pas les recréer aujourd'hui. Donc il y a véritablement une sorte d'apprivoisement de ces herbiers pour en comprendre toute la puissance et toute la richesse.
Oui, parce qu'il faut dire que l'herbier national, c'est au départ une collection d'herbiers, d'amateurs ou de savants, ou de gens qui sont partis très loin, comme les missionnaires, comme le fameux d'Incarville qui a envoyé en France des herbiers d'une richesse absolument inouïe. On va écouter l'évocation de l'herbier de Boissier par Jean-Claude Jolinon.
L'herbier Jean Giraud, qui date de 1558, qui est le plus vieil herbier connu en France, qui a été donné par un contemporain d'Antoine de Jussieu, un dénommé Boissier. Si on ouvre cet herbier qui est relié, on voit une lettre. C'est la lettre de Boissier qui offre cet herbier à Antoine de Jussieu. « Voilà, monsieur, un bouquet que je vous prie d'accepter. Quoique ce ne soit pas de fleurs, il a son mérite par les feuilles et les herbes conservées depuis un si longtemps. » Je souhaite aussi que le témoignage de l'auteur de ce recueil puisse servir de quelque preuve à l'avantage de la faculté de Lyon et vous assure que je suis de tout mon cœur pour vous, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur, signé Boissier, le 23 février 1721. Donc, cela faisait 11 ans qu'Antoine de Jussieu était professeur au muséum. Il recevait ce cadeau qui est resté donc célèbre. Alors, si on ouvre cet herbier, nous voyons que les plantes sont cousues, qu'il y en a plusieurs par page. Il y a 300 et quelques plantes dans cet herbier. Et nous voyons qu'il est conservé d'une manière absolument extraordinaire, puisque lorsque j'ouvre à cette page, qui est la page de la cartame, eh bien on s'aperçoit que les couleurs sont parfaitement conservées. Il faut dire que le genre Cartamus est une plante tinctoriale. Ce n'est peut-être pas extraordinaire, mais quand même.
Marc Janson, c'est vrai qu'il y a des quantités d'herbiers dans ce grand herbier national, depuis les plus prestigieux jusqu'aux plus humbles, puisque même vous avez gardé la trace de certains petits herbiers herborisés dans les tranchées par les poilus.
Absolument, on a des herbiers de différentes valeurs en quelque sorte. C'est une collection avant tout scientifique, cet herbier national. Mais parmi cet ensemble immense se cachent aussi certaines collections qui sont moins conservées pour leur valeur scientifique que pour la valeur humaine ou la valeur plutôt patrimoniale. Et on a effectivement ce qu'on appelle l'herbier des poilus qui avait été présenté lors d'une exposition, qui était l'exposition Jardin au Grand Palais en 2017, où on trouve ici à la fois les plantes que l'on peut trouver dans des terrains qui ont été retournés par les bombardements, par le creusement des tranchées, mais aussi, bien sûr, tout l'espoir et toute la détresse de certains poilus qui échangeaient ces plantes avec une marraine des poilus, Gailleton, qui a accumulé elle-même, qui a constitué cette collection bouleversante.
Est-ce que, justement, aujourd'hui, où quand même tout le monde se pose la question de notre survie, de la survie de la planète, est-ce que vous avez l'impression, Marc Janson, que, avec la modernisation de l'herbier, est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que, au fond, les budgets sont là, à la hauteur de l'importance du travail que vous effectuez là-bas?
Aïe, vous touchez un sujet sensible. Alors, je me permets de faire une petite distinction. Il y a un questionnement sur notre survie à nous en tant qu'espèce, ça c'est évident. La survie de la planète, je suis pas très inquiet. J'ai envie de vous dire que la planète, elle a vécu pendant des millions d'années sans nous, elle vivra très bien sans nous. Je pense qu'il faut être très clair là-dessus.
Il suffit de voir ce qu'il y a à Tchernobyl.
Voilà, l'homme va disparaître, peut-être, puisqu'il a une tête brûlée, qui n'en fait qu'à sa tête, il ne s'intègre pas dans le monde vivant, il pense qu'il peut vivre en dehors des contingences matérielles et biologiques de tout être vivant sur cette planète. Tant pis pour lui, c'est dramatique, bien sûr, je ne m'en réjouis pas. Dans notre chute, on entraînera quantité d'espèces qui n'avaient rien demandé à personne. Il y a évidemment une injustice dans le fait qu'on sait très bien que ce sont les zones tropicales qui ont globalement moins contribué aux changements actuels qui vont souffrir le plus. Donc, il y a quantité de choses que l'on peut discuter, mais ça ne se discute qu'à l'échelle de la survie de l'être humain. Les plantes vivront très bien sans nous. Théodore Monod, le grand Théodore, disait que ce seront les grands poulpes qui nous remplaceront. Sur l'avenir du vivant sur la planète, je ne suis absolument pas inquiet. Par contre, vous avez tout à fait raison en disant qu'à partir des années 70 du XXe siècle, il y a eu une sorte d'oubli, voire de mépris pour ces collections d'histoire naturelle. C'était poussiéreux, ça appartenait à un autre siècle. On était dans l'homme conquérant qui s'intéresse vraiment beaucoup plus à la génomique, à l'ADN, au moléculaire qu'à l'organisme en tant que tel. Et on vit aujourd'hui une sorte de retour vers cette étude des organismes parce que, ben oui, le monde est en train de changer. Il est en train de changer à toute vitesse. On est en train d'avoir un impact. On se rend compte aujourd'hui, ça fait longtemps que c'est le cas, mais on se rend compte aujourd'hui de façon un peu plus aiguë que ces changements, ils sont liés à nos activités. Et si on a trouvé les quelques 25-27 millions d'euros qui ont été nécessaires à la rénovation de l'herbier, je pense que ça n'est pas totalement en décalage avec cette prise de conscience actuelle. Après, sur ce que l'on fait de ces collections, aujourd'hui elles sont très bien conservées, elles sont valorisées par la recherche, par des chercheurs français, mais par toute une communauté internationale de chercheurs. Ce qui me rend moi un petit peu plus amer, c'est qu'on sait que l'horloge tourne, qu'à l'heure où nous parlons, des espèces sont en train de disparaître pour la plupart dans les zones tropicales où il reste encore tant de travail à faire. On a la chance d'avoir un trésor comme l'herbier national ici, mais il y a aussi évidemment bien d'autres herbiers exceptionnels partout dans le monde, à New York, à Londres, etc. Et que je pense je ne suis pas le seul à le penser, hein, des gens comme Edward Wilson, le fondateur de ce terme de biodiversité, l'appel de ses voeux aussi, qu'il serait peut-être temps d'investir à l'image de ce qu'on investit dans la conquête spatiale, ce qu'on réinvestit, parce qu'il y a une sorte de retour vers l'espace aujourd'hui par les Américains et les Chinois. Eh bien, moi, ce que je souhaiterais peut-être, à ma plus humble échelle, c'est qu'on investisse aussi quantité de crédit pour finir, et j'ai envie de me dire commencer, parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, on a à peine commencé ce grand inventaire de tout ce vivant qui nous entoure. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de moments dans l'histoire humaine où ça a été aussi utile. Et encore une fois, les herbiers sont là pour nous y aider.
Merci infiniment Marc Janson d'être venu nous en parler aujourd'hui. Alors on va se quitter avec la voix de Francis Allais sur le générique. Et je rappelle que votre livre Botaniste, co-écrit avec Charlotte Faux, vient de paraître aux éditions Grasset. Et qu'il faut le lire parce que c'est d'abord un livre très très bien écrit, passionnant. Et puis que c'est bien parce qu'on se rend compte à quel point nous avons besoin des plantes et elles ont besoin de nous également. Merci à vous Marc Janson.
Merci Kathleen Evin, merci beaucoup. Au revoir.
Vous connaissez la sensitive ? On touche les feuilles, elle se plie, puis elle met une demi-heure à l'air. Bon. Vous élevez une sensitive chez vous. Elle n'a jamais reçu la pluie. Normal. Vous la sortez. Elle reçoit sa première pluie. Évidemment, tous ces petits chocs sur ses feuilles, comme elle ne connaît pas, elle se plie. Mais comme elle n'est pas idiote, au bout de 3-4 pluies, elle a compris que c'était pas la peine. C'est plutôt positif pour elle que dangereux, donc elle ne se plie plus. Ok, elle a compris. Vous la rentrez. Et vous l'élevez chez vous à nouveau, mais pendant 5-6 ans, cette coup-ci. Vous la sortez. Et bien, quand elle reçoit la pluie, elle ne se plie plus. Elle a gardé la mémoire de cette connaissance. Pourtant, ce n'est pas les mêmes feuilles. Hein, parce qu'en 5-6 ans, il y a eu beaucoup de générations de feuilles qui ont tourné. Voilà, les plantes ont une mémoire. Les plantes sont capables de prendre soin de leur descendance. Hein. Les arbres ont un sens de la famille, au sens que nous donnons à ce mot-là. Des capacités d'anticipation. Bref, tout le syndrome de l'intelligence est là.
C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.